Bonjour à tous, bonjour à toutes, je vais mettre au milieu. Ça va? Vous savez, c'est un cadeau de vivre ces temps-là. Le psaume 16 nous dit qu'il y a d'abondante joie, des délices éternels en sa présence. Et là, on goûte aux délices de sa présence. C'est tellement bon. On va continuer sur notre série sur Matthieu. Je vous invite à prendre vos Bibles. Et si vous les avez pas, vous, votre smartphone. Mais pour suivre avec moi, on est à Matthieu 11. On a eu plusieurs prêches sur Matthieu que je vous invite à réécouter sur le site internet. N'hésitez pas pour bien suivre, il y a des pépites que vous pouvez retrouver dans ces différents prêches. Et donc on va continuer sur les prochains chapitres de Matthieu à partir de Matthieu 11 et on va lire ensemble au verset 1. Quand Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes de la région. Du fond de sa prison, Jean apprit tout ce que faisait le Christ. Il envoya auprès de lui deux de ses disciples et ils lui demandèrent « Es-tu celui qui devait venir ou bien devons-nous en attendre un autre ?» Et Jésus leur répondit « Retournez auprès de Jean et racontez-lui ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les paralysés marchent normalement, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Heureux ce qui ne perdra pas la foi à cause de moi. » Je vous invite à prier. Seigneur, vraiment, je te remercie pour ta présence et merci pour ce temps si délicieux que nous avons pu vivre à tes côtés. Et je prie que tu nous inspires, Seigneur, que tu m'inspires dans cette prédication, Seigneur, que tout ce qui soit dit soit à ta gloire, soit conforme à ta parole, Seigneur. Et vienne toucher nos cœurs, vienne transformer encore nos vies de l'intérieur, Seigneur. Tu as dit « Heureux celui qui écoute et qui met en pratique ta parole. » Que nous soyons, Seigneur, des disciples, des enfants qui écoutons et qui mettons en pratique. Amen. Amen. Alors, pour ceux qui peut-être sont nouveaux dans la foi, je vais essayer de faire quelques digressions pas trop longues, mais pour que vous puissiez comprendre que Jean-Baptiste, en fait, Jean-Baptiste, il y a des centaines d'années avant, la Bible, les prophètes et notamment Malachie, donc vous pourrez le relire dans Malachie 1.1 ou dans Malachie 3, verset 23, donc il est dit que voici Élie devait revenir. Donc Élie, c'était un prophète qui était monté au ciel sur un char de feu, qui n'est pas mort. Et il avait été prophétisé par le prophète Malachie qu'un jour, cet Élie devrait revenir, qui ramènerait le cœur des pères au cœur des fils, le cœur des mères au cœur des filles. Et ce Jean-Baptiste, qui est né quelques mois avant Jésus, il est dans le désert, il se nourrit que de miel et que de sauterelles. Je ne sais pas si vous aimez les sauterelles, mais lui en tout cas c'était son plat préféré. Et il enseignait « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Et nombreux, beaucoup de juifs venaient pour se faire baptiser et pour se repentir de leurs péchés et dire « Voilà, je veux changer de vie ». Je rappelle que la repentance, ce n'est pas seulement demander pardon, c'est faire demi-tour. Et donc tous ces juifs faisaient demi-tour et se repentaient de leurs mauvaises actions et de leurs péchés. Mais Jean-Baptiste, il connaissait bien, parce que Jésus, c'était son cousin, il connaissait toutes ses prophéties, et lui-même, il dit qu'il est cette voix qui crie dans le désert et qui ouvre la voie pour celui qui doit venir. Parce que plusieurs croyaient, ils disent, mais Jean-Baptiste, es-tu le Messie? Il dit, non, moi, je ne suis même pas digne de dénouer la lanière de ses sandales, mais celui qui vient après moi, il est encore plus grand. Tiens, et puis à ce moment-là, Jésus arrive et dit « Voilà, voilà, c'est lui, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lui doit grandir et moi, je dois diminuer. » C'est ce que Jean-Baptiste a dit. Et Jean-Baptiste se retrouve quelques semaines ou mois après emprisonné parce qu'il a pris par rapport au roi Hérode qui avait fait un péché et puis il a dénoncé. Et du coup, il se retrouve mis en prison et je vous rappelle ces paroles de Ésaïe 61 qui dit, parce que lui, tout ça, Jean-Baptiste, il le savait que Jésus, que le Messie était venu. Pourquoi? Pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs. Et je lis même précisément, il est dit, annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté. Et imaginez Jean-Baptiste qui a vécu des miracles, qui a baptisé Jésus, qui a vu cette colombe descendre du ciel, entendre cette voix « Voici mon fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection ». Et ce même Jean-Baptiste se retrouve en prison, les jours passent, les semaines passent, les mois passent, et essayons de nous mettre à la place de Jean-Baptiste qui a vécu tout ça, et qui d'un coup il dit « Mais pourquoi je suis en prison ? Si vraiment Jésus c'est le Messie, si vraiment c'est celui que Dieu a envoyé, et je le crois, et on peut voir, et je peux imaginer cette dualité au fond de lui. Mais pourquoi je suis encore en prison ? Puisqu'il est venu libérer les captifs. Et donc, moi, c'est comme ça que je le comprends, qu'il envoie ses deux disciples, il dit, est-ce que c'est vraiment toi qui dois venir libérer les captifs ? Si je reparaphrase sa question, c'est, est-ce que c'est vraiment toi qui es le Messie, celui qui va enfin nous délivrer et qui va me sortir de ma prison ? Et on peut comprendre que c'est assez surprenant, Jésus ne va pas le libérer de sa prison. Jean-Baptiste, on sait qu'il va mourir quelques jours après. Et on peut vivre chacun des déceptions et des incompréhensions et des pourquoi. Et on peut rester avec nos pourquoi. Dire, mais Seigneur, je ne comprends pas, tu es le libérateur, tu es le protecteur, tu es celui qui guérit. Et pourquoi je suis encore dans cette situation-là ? Et Jésus... Ce qui est fou, c'est qu'il renvoie les deux disciples, et je vous le relis, il dit « Retournez auprès de Jean et racontez-lui ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les paralysés marchent normalement, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. » Et parfois, quand on passe par des situations difficiles qui n'ont pas de raison, il n'y a pas d'explication. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup expliquer les choses. Dire, ben voilà, il s'est passé ça parce que j'ai mal parlé. Il s'est passé ça parce que j'ai fait ça. J'aime toujours qu'il y ait un lien de causalité avec ce qui m'arrive. Et sauf que plus je mûris, plus je grandis, plus j'avance en âge. Et je dois avouer qu'il y a des situations qui sont inexplicables. Il y a des situations qu'on ne comprend pas. Il y a des décès qu'on ne comprend pas. Récemment, on a un couple d'amis qui a perdu son fils de 10 ans. Sans aucune raison, il ne s'est pas réveillé un matin. Pourquoi ? Est-ce que je peux expliquer ça ? Il n'y a aucune explication. Et je suis sûr que chacun d'entre vous, vous avez peut-être des proches qui sont partis, qui passent par la maladie, et on ne comprend pas pourquoi ça ne se résout pas et pourquoi ça se passe comme ça. Mais ce que je veux vous dire ce matin, c'est que, redire ce que Jésus a dit, les aveugles voient, les paralysés marchent normalement, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent. C'est le royaume de Dieu qui se manifeste dans nos vies. Même si on ne comprend pas, même si on n'a pas la réponse à notre pourquoi, Dieu est avec nous et Dieu est à l'œuvre. Et le danger, c'est que si on laisse cette incompréhension, ce pourquoi, cette déception prendre racine dans nos vies, c'est là que naît l'incrédulité. L'incrédulité, c'est le contraire de la foi. L'incrédulité, c'est ne plus croire ce que Dieu dit, c'est ne plus croire c'est la parole de Dieu. Et le danger, c'est que nos expériences, parfois, vont venir fonder notre croyance, vont venir fonder, en fait, un peu remplacer les Écritures, dire, mais regarde, moi, j'ai prié pour tel ou tel malade et il n'a pas été guéri. Donc, Dieu ne guérit pas. J'ai vécu le deuil, donc j'ai prié pour la résurrection. J'ai prié et il n'a pas été ressuscité, donc Dieu ne ressuscite pas. Et le danger, les amis, aujourd'hui, au 21e siècle, c'est que nos vies soient enracinées dans nos expériences et dans nos déceptions. Et c'est là qu'on ne croit plus en la puissance de Dieu. Et pourtant, Dieu aujourd'hui guérit. Dieu encore aujourd'hui ressuscite les morts. Dieu libère. Et ce qui doit faire foi, ce n'est pas nos expériences, c'est la parole de Dieu. Et j'ai senti que, alors que je préparais ce temps, Dieu voulait venir au fond de nos cœurs, régler et nous libérer de ces déceptions. Et plusieurs ici, alors que je parle, tu le sais, tu es déçu de Dieu. Pourquoi ? Pourquoi il n'a pas agi dans ma situation ? Où il était lorsque j'ai vécu ça, ça, ça ou ça ? Et pour plusieurs ici, vous connaissez notre histoire. L'histoire de la famille Sarkis, c'est que quand on était jeune, on a perdu notre maman. Moi, j'avais 8 ans. Et pareil, pendant des années, j'ai eu c'est pourquoi. J'ai pleuré combien de fois ? J'ai pleuré, dire, mais Seigneur, mais pourquoi ? Pourquoi moi ? Vous savez que mon ami Mathieu, qui travaille aujourd'hui, c'est mon meilleur ami depuis plus de 30 ans. Et je pense justement, je me suis dit, mais pourquoi moi ? Et pourquoi pas mon ami Mathieu ? Pourquoi pas d'autres amis ? Pourquoi pas d'autres personnes ? C'est tombé sur moi. Mais ce que je peux vous dire, ça fait 30 ans en 2023, et je peux le dire, que quand je me tourne, Dieu a été fidèle. Je n'ai pas eu réponse à mes pourquoi. Je ne sais pas pourquoi elle est partie si jeune. Mais ce que je sais, c'est que Dieu a été fidèle en toutes choses. Et aujourd'hui, un des hommes les plus heureux, c'est mon cher papa, parce qu'il a le privilège d'avoir 4 enfants qui marchent avec le Seigneur, qui sont mariés, qui ont des enfants, 11 petits-enfants. Et on a nos hauts et nos bas, mais on est enracinés dans le Seigneur. Parce que Dieu prend soin des orphelins. Dieu prend soin de ceux qui passent par le deuil. Dieu prend soin d'un petit enfant de 8 ans qui ne sait pas ce qui est arrivé. Mais Dieu est là. Et c'est ça que je veux vous encourager, c'est de ne pas focaliser sur vos problèmes, de ne pas focaliser sur vos incompréhensions, sur vos déceptions, mais de faire confiance à Dieu. Même si tu ne comprends pas, même si ça sort de ta raison, même si comme moi, tu aimes tout analyser, tout expliquer, et là tu n'as pas d'explication, ne doute pas que Dieu est bon. Ne doute pas que Dieu guérit, ne doute pas qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sinon ça va faire obstacle à ta foi, et ça va faire obstacle à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Et plus nous allons avancer dans ce monde, plus nous allons avancer peut-être dans cette crise économique ou dans plein d'autres choses, parce qu'on voit bien que les temps s'accélèrent et qu'on ne peut pas passer une année sans un Covid, sans une guerre, c'est incroyable. Moi, j'ai que 39 ans, mais j'ai jamais vu, et je pense qu'on sera tous d'accord, on n'a jamais vu autant de fléaux, de séismes et de catastrophes se passer sur cette terre. C'est bien que soyons conscients que les temps, ça s'accélère, qu'on est dans les temps de la fin. Est-ce que c'est 2 ans? Est-ce que c'est 100 ans? Donc, on ne sait pas. Par contre, le Seigneur nous encourage à nous préparer. Et il y aura des incompréhensions, il y aura des difficultés. Mais Dieu est là. Il nous l'a promis. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il est là jusqu'à la fin du monde. Il est dans notre barque. Alors, ne nous inquiétons pas et ne laissons pas la déception venir et s'installer dans notre cœur, que ces racines d'incrédulité ne prennent pas, ne trouvent pas terre en nous. Et c'est ce que dit Jésus, c'est assez surprenant, vous savez qu'après, je ne vais pas tout lire, mais Jésus dit « Qui êtes-vous allé voir au désert ?» Un prophète, je peux vous dire qu'il n'a sur cette terre aucun prophète aussi grand que Jean-Baptiste. Et là, Jésus dit une phrase, pour être honnête, que je ne comprends toujours pas, il dit « Et pourtant, Jean-Baptiste est le plus petit dans le royaume des cieux. » Si un jour quelqu'un veut m'expliquer, moi j'ai toujours pas compris, mais en tout cas ce que j'ai compris, c'est que et juste avant, Jésus dit « Heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. » Et je crois que c'est un défi pour chacun d'entre nous, peu importe que tu sois grand, petit, peu importe ce que tu vis, de ne pas perdre la foi. Et rappelez-vous ces paroles de l'Apocalypse qui dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Que notre amour pour Dieu ne se refroidisse pas, mais qu'on reste bouillant. Les paroles dans Apocalypse, c'est que si on est froid, que si on est tiède, que c'est assez dur, que Dieu nous vomira de sa bouche. Dieu n'aime pas les tièdes. Presque soit froid, presque c'est mieux. Non, soyons bouillants, restons bouillants, que notre amour reste bouillant pour Dieu, malgré les difficultés, malgré nos incompréhensions, faisons-lui confiance. Confiance, vous savez que c'est une racine de foi. Faire confiance à quelqu'un, c'est s'abandonner. C'est dire, Seigneur, je ne comprends pas, là vraiment ça dépasse mon entendement, mais je te fais confiance, je me jette dans tes bras, sans savoir ce qui va se passer, je me jette dans le vide. Faire confiance, c'est ça, il y a une part de risque, il y a une part, et je pense qu'il faut qu'on accepte en tant qu'être humain, et c'est dur, de rester dans l'humilité et d'accepter que nous ne sommes pas Dieu. Nous ne pouvons pas tout comprendre. Nous, on voit qu'une petite partie de l'image, mais Dieu, lui, il voit tout et il sait pourquoi les choses arrivent. Et si je reprends mon exemple, qui sait quel est l'homme je serais si ma mère était toujours en vie? Ma mère luttait avec la dépression. Est-ce que j'aurais une maman sur les bras qui serait dépressive et ça aurait été peut-être un calvaire pour ma famille? Je ne sais pas. Et je ne peux pas dire que c'était le meilleur pour nous. Mais ce que je peux dire par contre, et ça c'est mon témoignage, personne ne pourra me l'enlever, c'est que je suis l'homme que je suis aujourd'hui parce que j'ai vécu ce décès, parce que j'ai vécu cette tragédie il y a 30 ans. Et personnellement aujourd'hui, et ça ne m'appartient qu'à moi, chacun le vit différemment, mais je n'aurais même pas envie que ce soit différent. Parce que je ne sais pas ce que je serai. Dieu sait ce qu'il fait. Et je ne dis pas que c'est Dieu qui m'a forcément enlevé ma main. Mais en tout cas, il a utilisé cette tragédie. Il a utilisé ce deuil pour nous forger, pour qu'il y ait une soif et une faim de lui qui s'installe en nous, en chacun de mes frères et sœurs. Alors faites confiance au Seigneur. Dieu a tout fait pour un but. Proverbe 16, verset 4. Même le méchant pour le jour du malheur. Dieu sait ce qu'il fait. Et toutes choses concourent au bien de ceux qu'il aime. Alors fais-lui confiance. Toutes choses, même les choses les plus difficiles, concourent à ton bien. Faisons-lui confiance. Et bien sûr, ça n'enlève pas les moments difficiles. J'ai beaucoup pleuré. Et peut-être que si vous passez par des moments de deuil, de tristesse, de dépression, quoi, c'est difficile. Et il ne s'agit pas de dire c'est bon, je vais très bien. Il faut avoir ces temps de deuil ou quoi, mais juste de savoir rebondir et de regarder devant, de ne pas regarder en arrière, et si elle était encore là, et si, et si, et si. Seigneur, je te fais confiance, je m'accroche à toi. Et vous savez que c'est la foi, c'est par la foi que nous lui sommes agréables. C'est par la foi que nous lui faisons plaisir. Et si vous relisez Hébreux 11, Paul parle de tout, enfin Paul ou celui qui écrit l'Épître aux Hébreux parle de tous ces hommes de foi, Abraham, Gédéon, tous, en fait, à chaque fois, ils trouvent plaisir en Dieu ou Dieu prend plaisir en eux parce qu'ils ont eu foi en les promesses de Dieu. Et pourtant, c'est ça qui est extraordinaire, et Matthieu en reparlait la semaine dernière, c'est que Dieu appelle à chaque fois des, il faut le dire, des bras cassés, des personnes qui sont comme vous et moi. On n'est pas les meilleurs du monde, mais Dieu t'appelle. Dieu t'appelle, il te dit « Aie foi en mes promesses, aie foi dans ce que je te dis, aie foi en ma parole, mets-la en pratique, en dépit des circonstances, en dépit de tes incompréhensions. » Et je pense que c'est un encouragement, et on priera à la fin pour ça, pour plusieurs ici, d'accepter de ne pas comprendre. Nous les Français, on est des bons cartésiens, on aime réfléchir, on aime comprendre, et une fois de plus, le Seigneur aime ça, il nous a donné de l'intelligence. Mais je pense que la foi nécessite parfois de lâcher prise, même si on ne comprend pas. Et ça, en tout cas, ça a été mon cas, et c'est ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir aller plus loin, et dans des circonstances, et sûrement dans des moments difficiles qui m'arriveront sûrement dans les prochaines années, de ne pas perdre la foi, mais de dire « Seigneur, je veux me souvenir de ce que tu as fait il y a 30 ans, alors que j'étais un petit garçon orphelin. Tu as pris soin de moi, tu as donné une force extraordinaire à mon papa pour jouer le rôle de papa et de maman à la fois. Il n'aurait pas pu le faire tout seul. C'est Dieu en lui qui lui a donné cette force-là. Et Dieu l'a fait, je suis sûr, dans vos vies aussi, et le fera. Alors, tenons ferme, les amis, dans la foi. Enracinons-nous dans l'amour, dans la parole de Dieu. Et peu importe les circonstances, continuons d'avancer parce que Dieu est avec nous. Ne nous laissons pas aller au découragement. Parce que la parole de Dieu nous dit un peu plus loin dans le verset 12, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Et par violent, attention, ce n'est pas la violence physique, ce n'est pas la violence qu'on peut voir à la télé, mais c'est la violence, c'est-à-dire qui, waouh, il y a un feu qui nous anime, on dit, waouh, Seigneur, je veux vivre ça, ce que je lis dans les Actes des Apôtres, je veux le vivre, je n'y suis pas, Seigneur. Et il y a un côté violent de dire, je suis actif, je suis, je dirais, plein d'énergie. Parce que je veux vivre, Seigneur, ce que dit ta parole. Dieu n'a pas appelé des passifs, il n'a pas appelé des timides. Si tu es timide dans cette salle, je veux t'encourager. Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. C'est cet esprit-là qui doit nous animer en tant que chrétiens. Et je nous encourage à être ces violents qui se lèvent, même si c'est dans les larmes que nous semons. Un jour, nous moissonnerons avec joie. Amen. Amen. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Et au verset 25, c'est magnifique, Jésus dit « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces vérités aux sages et aux intelligents et que tu les as dévoilées à ceux qui sont tout petits. Oui, Père, car dans ta bonté, tu l'as voulu ainsi. Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » J'aime ces versets parce que ça nous parle d'humilité. Si tu te sens tout petit, voilà une bonne nouvelle pour toi. Dieu prend plaisir, je reparaphrase, Dieu prend plaisir à révéler les choses magnifiques, à révéler les choses du ciel aux tout petits. Et bien sûr, ça fait référence aux enfants, mais ça fait référence aussi à chacun d'entre nous de rester des enfants dans le Seigneur. Parce que nous sommes enfants de Dieu, mais de garder ce cœur humble et ce cœur ouvert à ses promesses, ouvert à ce qu'il nous dit, de ne pas se poser de questions. Mais si Dieu le dit, c'est que c'est vrai. Et d'accueillir ce qu'il nous dit et dire « Seigneur, me voici devant toi ». Donc je nous encourage à rester dans cette attitude d'humilité, dans notre chemin avec le Seigneur, parce que Dieu est bon. Dieu est bon et Jésus, il était doux et humble de cœur. Et rappelons-nous que dans Proverbes plusieurs fois, il est écrit que l'humilité précède la gloire. Si tu veux être élevé, si tu veux vivre des choses incroyables avec Dieu, sois humble. Reste dans l'humilité, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et cette grâce, ô combien on en a besoin, j'en ai besoin moi le premier tous les jours. Seigneur, que ta grâce soit sur chacun d'entre nous. Alors ne cherchons pas à briller, ne cherchons pas à nous élever, mais autant que convenable, comme la parole de Dieu le dit, Dieu t'élèvera. Restons dans l'humilité. Et enfin, Matthieu 11 se termine avec cet encouragement et cette consolation pour nos vies. Et c'est pour plusieurs aussi ce matin. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau. Et plusieurs le sont ce matin, je peux le sentir dans mon esprit. Tu te sens accablé d'un lourd fardeau. Mais Jésus te dit, viens à moi et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, prenez mon fardeau sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug ou mon fardeau est facile à porter et la charge que vous impose est légère. Si tu croules sous un fardeau, sous un poids qui te fait mal aux épaules, le Seigneur veut te libérer. Viens à la croix, viens décharger tes fardeaux aux pieds de Jésus, parce que son fardeau, il est léger. Ce qu'il nous donne, sa volonté, c'est léger, c'est frais, ça nous encourage, ça nous donne la vie. Ça nous donne la vie. Amen. Amen. On continue au chapitre 12. Et donc, on peut aller au chapitre 12, verset 12, parce que le chapitre 12 parle beaucoup du Shabbat ou du sabbat en français, parce que les pharisiens commencent à vouloir tuer Jésus parce qu'il a enfreint, soi-disant, le sabbat, parce qu'il a laissé ses disciples manger des grains de blé et qu'il a guéri un homme paralysé de sa main le jour du sabbat. Alors, qu'est-ce que c'est que le sabbat? Peut-être que certains ici ne le savent pas. Mais il faut savoir que le jour du sabbat était au cœur même de la judéité. Ce n'était pas simplement l'un des 10 commandements, parce qu'il y avait les 10 commandements donnés par Moïse, mais c'était l'un des plus grands marqueurs identitaires du fait qu'Israël avait été choisi par Dieu pour être un peuple saint. Ceux qui enfreignaient le sabbat pouvaient être punis de mort. Et il faut savoir que Jésus aussi l'observait. Mais tandis que les pharisiens remplissaient leur carnet de notes, de commentaires sur le sabbat, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas allumer la lumière, il y avait une liste assez longue. Jésus incarnait l'esprit même du jour du repos. Il veut libérer ses concitoyens juifs du légalisme de leur religion. Et en fait, les pharisiens, ils avaient mis une charge tellement lourde. Juste avant, on vient de lire que le fardeau de Jésus, il est doux et léger. Mais les pharisiens, par toutes leurs lois, toutes leurs préceptes, toutes leurs « il faut pas, il faut pas, il faut pas », il y avait une lourdeur énorme. Je peux vous assurer que le jour du sabbat, vous étiez épiés pour savoir qui faisait quoi. Et c'était très très strict, puisque je vous le rappelle, vous pouviez avoir beaucoup de problèmes, voire être jusqu'à puni de mort. Le verbe « sabbat » signifie « arrêter de travailler ou se reposer ». L'essence du sabbat était de ne pas travailler. Et Dieu lui-même, je le rappelle à la création, s'est reposé le septième jour dès le début de la création. Non pas parce qu'il était fatigué, je pense que Dieu, il n'est jamais fatigué, mais parce qu'il voulait nous donner un modèle à suivre. Les amis, nous avons tous besoin de repos pour continuer à bien fonctionner. Et je vais m'arrêter là quelques minutes parce que c'est tellement important. On est aujourd'hui dans une société, et j'y suis soumis aussi, où tout va très vite. C'est le zapping, il y a ci, il y a ça, on est sollicité de partout les réseaux sociaux. Et je vous encourage, les amis, que ça, pour votre corps, pour votre âme, mais pour votre esprit, d'apprendre à vous reposer. C'est un commandement et ce n'est pas pénible, ce n'est pas pour nous embêter. Mais si le Seigneur, si Dieu lui-même s'est reposé, c'est parce que, comme je l'ai dit, c'était un modèle que nous devons suivre. Ça peut être le samedi, ça peut être le dimanche, ça peut être le lundi, peu importe quel est ton jour de repos, mais repose-toi. Et qu'est-ce qui se passe pendant ce jour de repos? Tu débranches de tout ce qui est travail. Si comme moi, vous avez donc un ordi portable pour travailler, il ne s'allume jamais. Vous le laissez dans votre sacoche et vous ne travaillez pas. C'est un jour pour vous retrouver en famille, pour prendre du temps avec le Seigneur, pour lire la parole de Dieu, louer le Seigneur, aller vous balader, aller faire du bien, remplir votre corps, âme et esprit, de vous remplir de sa présence, de la nature, de vous aérer l'esprit. Et c'est pour ça qu'il y a tant de burn-out, il y a tant de gens qui sont au bout du bout parce qu'ils ne prennent pas le temps de se reposer. Si le Seigneur nous donne des principes, ce n'est pas pour nous embêter. Ce n'est pas pour dire, allez, il faut te reposer. Bon, d'accord. Non, c'est parce que c'est le meilleur pour toi. Il faut comprendre que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est le meilleur pour nous. Donc, s'il nous enseigne à nous reposer un jour par semaine, ce n'est pas pour nous embêter. Et je sais qu'il y a beaucoup d'actifs dans cette communauté, et moi j'en suis un aussi, mais j'ai appris. Pour moi, je vais être transparent avec vous, quand j'étais jeune, un samedi sans copains, sans fête et machin, c'était la loose. C'était nul et ça a été très très dur au début. On s'est bien pris la tête avec Elodie, donc au début, dans les premières années de mariage, parce que c'est « Non mais chérie, viens, on reste entre nous. Oh chérie, moi j'ai envie d'aller faire un foot, j'ai envie de faire ci, de faire ça. » Parce que j'avais grandi comme ça, où tous les jours, peut-être parce qu'il m'est arrivé, mais tous les jours, c'était soit un foot, un poker, un McDo, un machin, il y avait toujours quelque chose. Et j'ai appris, Dieu m'a enseigné à me reposer. Et aujourd'hui, c'est quand même dingue, mais 13 ans après, ça fait 13 ans que nous sommes mariés, mariés avec Hello, mais aujourd'hui, c'est moi le premier, je suis trop content. Je sais que c'est samedi, c'est notre temps de repos où on va pouvoir se retrouver en famille, prendre le temps, voilà, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de rendez-vous, on prend le temps. Et qu'est-ce que ça fait du bien hier, mais ça m'a fait un bien d'aller me balader avec mes enfants, faire du vélo. C'est tellement bon et je vous encourage, si vous n'avez pas goûté à ça, prenez le temps. On a pris du temps pour lire la Bible, on a pris du temps. Et je vous rassure, des fois, c'est la cata. Des fois, ça court, ça crie, on dit « waouh !» C'est pas le bon jour, mais c'est pas grave. Mais on persévère. Et des fois, c'est extraordinaire. Des fois, on a des temps de prière, des temps de partage du pain et du vin extraordinaire. Et c'est pas grave. Mais même si ça se passe pas très bien, persévérez avec vos enfants, persévérez en couple. C'est tellement important d'avoir ces temps de repos. Je le répète, si Dieu s'est reposé le septième jour, c'est que c'est important pour nous aussi. On continue. J'avais à cœur de vous parler du verset 30, donc toujours dans Matthieu 12. « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne se joint pas à moi pour assembler disperse. C'est pourquoi je vous avertis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais pas le blasphème contre le Saint-Esprit. Si quelqu'un s'oppose au Fils de l'homme, il sera pardonné. Mais si quelqu'un s'oppose au Saint-Esprit, il ne recevra pas le pardon, ni dans la vie présente, ni dans le monde à venir. » Et je voulais en parler parce qu'on n'en parle pas souvent à l'église. Et c'est peut-être quelque chose, quand vous lisez votre Bible, d'un coup, ça vous fait un peu peur. Dire, oula, est-ce que moi, j'ai pu blasphémer contre le Saint-Esprit? Et je voulais rappeler qu'est-ce que Jésus voulait dire à ce moment-là. Bien sûr, il s'adresse en fait aux non-croyants qui, tout en reconnaissant Jésus, Fils de Dieu, tout en reconnaissant que... Alors, eux, carrément, ils avaient Jésus qui était devant eux, mais ils voyaient que Jésus était le Messie et ils se sont opposés à Jésus. Ils ont refusé de croire en lui. Et je veux vous rassurer tous ici, le blasphème contre le Saint-Esprit, ce n'est pas pour nous croyants qui plaçons notre confiance en Jésus, qui vraiment accueillons le Saint-Esprit dans nos vies, mais c'est pour tous ceux qui, voyant que Jésus est le Fils de Dieu, voyant que Jésus est le Messie, qu'il est le Sauveur du monde, choisir de dire ben non. Moi, délibérément, je refuse de suivre Jésus, mais je veux être mon propre Dieu. Et ça, c'est ça, s'opposer au Saint-Esprit, comme il est écrit. Donc, on n'est pas ici pour juger, dire qui dans notre entourage ou quoi. C'est Dieu seul qui juge, mais c'est juste pour vous rassurer, pour peut-être venant, je sais, de différents backgrounds, peut-être que vous avez été mal enseigné, de croire que vous pouviez, vous... malheureusement, par une parole ou quoi, avoir blasphémé contre le Saint-Esprit, mais je voulais vraiment vous apporter la paix. C'est pas ce qui est écrit ici. Après leur avoir démontré le caractère illogique de leur raisonnement, puisque je vous rappelle que les pharisiens disent « Mais toi, en fait, tu chasses les démons par Belzébul, par Satan. » Et Jésus les prend complètement à revers, leur dit « Alors, juste explique-moi comment, si moi je suis avec Satan, comment je peux me délivrer moi-même ? C'est un peu bizarre. » Et donc, d'un coup, les pharisiens sont complètement surpris et estomaqués par ce qu'il leur répond. Et c'était très logique. Après leur avoir démontré le caractère illogique de leur raisonnement et le vrai sens du signe qu'il accomplit, Jésus avertit les pharisiens des conséquences de leur mauvaise foi. Si en toute connaissance de cause, ils refusent de croire en lui en s'opposant au témoignage intérieur de l'Esprit de Dieu en eux, alors c'est qu'ils ont choisi de refuser la vérité et de l'accepter. Tellement important d'accepter ça, d'accepter cette vérité en nous, et je sais que c'est le cas de tous ici, mais voilà, je voulais vous rassurer. Par rapport à ça, c'est important d'être bien enseigné et d'être fondé dans la parole de Dieu. Et enfin, le chapitre 13, c'est extraordinaire. Jésus, alors il aimait beaucoup parler en parabole et il va délivrer plusieurs paraboles. La parabole du semeur, celle de l'ivraie, celle de la graine de moutarde, celle de la perle, du trésor. Et je vous invite à le relire chez vous, vraiment, de relire les chapitres 11, 12 et 13. C'est passionnant. Mais je voulais juste terminer dans quelques minutes qui me restent sur la parabole du semeur. Vous savez, je pense que vous la connaissez tous ici, mais je la reprends rapidement peut-être pour les nouveaux qui nous ont rejoints. La parabole du semeur, c'est Jésus prend l'exemple d'un semeur qui sort pour semer. Et les graines, alors qu'il jette les graines, elles tombent dans plusieurs terreaux, plusieurs endroits. Et il nous est parlé, et je vais faire court, mais que ça tombe dans les cailloux. Alors, il y a la plante qui pousse, mais alors que le soleil se lève, tchac, c'est séché. Après, ça tombe aussi dans les racines. Ça commence à pousser, mais les racines, tellement que ça étouffe les graines, ça étouffe la plante, que les graines ne poussent plus et les plantes sèchent aussi. Après, ça tombe sur le chemin. Là, on a les oiseaux qui viennent picorer et qui viennent piquer les graines. Et enfin, ça tombe dans la bonne terre, où là, ça porte du fruit, 30, 60, 100. On est dans la multiplication. Et je voulais vraiment vous encourager, parce que je pense que c'est un encouragement du Seigneur pour plusieurs ici ce matin, que la parole de Dieu, parce que les graines représentent la parole de Dieu, que tout ce que le Seigneur nous dise tombe dans la bonne terre. Les ronces, Jésus nous dit que ce sont les soucis de la vie. Les soucis de la vie viennent étouffer nos plantes, viennent étouffer ce qui est en train de germer. Et que jamais, et c'est ma prière pour chacun ici, que les soucis, tout ce que pouvons vivre, ça ne vienne pas étouffer la foi, que ça ne vienne pas étouffer ce que le Seigneur est en train de faire germer en nous. Les graines qui tombent sur le chemin, c'est Satan qui vient voler. Combien de choses on s'est fait voler, et moi le premier. On est là, il y a quelque chose qui pousse, et puis il y a un frère, une sœur, un copain, quelqu'un qui nous dit une parole, et d'un coup, tu crois, et ça nous fait douter, et du coup, on perd du temps, on fait des mauvais choix. Combien de choses on s'est fait voler par l'ennemi? Et ça nous appelle à veiller et à prier, à être vraiment sur nos gardes, non pas dans la crainte, mais vraiment dans la foi, mais plus de discerner un peu ce qui se passe pour ne pas se faire voler les belles graines, les belles promesses, tout ce que le Seigneur veut déposer dans nos vies. Et enfin, pour terminer, les pierres, ça représente, en fait, il n'y a pas de racines. Vous connaissez aussi ce chant et ces paroles, et cette parabole que Jésus nous dit de cette maison qui est fondée sur le sable. Alors que la tempête arrive, alors que les vents soufflent, qu'est-ce qui se passe? La maison s'écroule. Mais quand on est fondé sur le roc, quand on est enraciné dans la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Le vent souffle, la tempête vient, mais notre maison reste bien établie. Et je vous encourage, plongeons nos regards, prenons du temps pour étudier la parole de Dieu, pour être enraciné, pour que si demain on vient vous dire « Oui, tu sais qu'il y a ci, qu'il y a ça, mais tu sais... » Eh bien, toi, tu es bien établi dans la vérité et tu sais dire, écoute là, ok, j'entends, mais je ne suis pas d'accord. Mon Dieu, il est fidèle, mon Dieu, il est bon. Parce que l'ennemi veut semer le doute. C'est ce qu'il a fait depuis la chute jusqu'encore aujourd'hui. Il veut semer le doute. Mais tu crois vraiment que Dieu est bon? Et tu crois vraiment que Dieu est fidèle? Et tu as vu ce qui s'est passé? Tu penses que c'est vrai? L'ennemi cherche à nous faire douter. Parce qu'il sait que le doute nous éloigne petit à petit de la foi. Plus on doute, et moins on aura de foi. Et ça nous arrive à tous de douter, il n'y a aucun problème à ça, mais de rester ancré, enraciné dans la parole de Dieu. Et plus on est enraciné dans cette parole, moins on doute, plus il y a des convictions qui s'établissent en nous. Amen.
Amen.
Amen. Alors que nos graines, alors que la parole de Dieu tombe dans la bonne terre, que ça puisse porter du fruit. On le dit ici plusieurs fois, mais Dieu, ce n'est pas le Dieu seulement de l'addition, c'est le Dieu de la multiplication. À chaque fois, le Seigneur multiplie, dit « Je te rendrai au centuple ». Et il est dit dans cette parabole-là qu'on va produire des fruits de 30, 60, 100. Donc c'est à ça que le Seigneur nous appelle. Amen. Eh bien, j'aimerais terminer par prier. Je vais demander à